Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se souviennent comment on avait intitulé jusqu'à maintenant la série qu'on a poursuivie là, jusqu'à date dans le cours des dernières semaines sur le livre de Malachie? Quelqu'un voudrait oser? La certitude de l'amour de Dieu. La certitude de l'amour de Dieu. C'est un titre qui, à première vue, dans le monde fragile et précaire dans lequel on vit, ça peut nous sembler surprenant. Parce que c'est pas nécessairement ça qu'on vit de toutes les façons, la certitude de l'amour de Dieu. Dans le monde dans lequel on vit, parfois on peut arriver en à douter avec tout ce qui se passe dans notre monde. On peut être parfois enclin à douter de la bonté, de l'amour ou même de la présence de Dieu parmi nous avec tout ce qui se passe, avec les drames, les malheurs, les injustices même qu'on peut vivre. C'est pas nécessairement évident de toujours croire à la certitude de l'amour de Dieu. Et c'est ce qu'on a vu notamment avec le peuple d'Israël à l'époque de Malachie. Pourtant, on a vu la semaine passée que même si nous vivons dans un monde troublé, Dieu n'est pas un être qui est indifférent à notre sort. On a vu la semaine passée qu'il prend des notes. Il prend des notes et il nous a fait une promesse qu'on a vue au chapitre 3 et 4, c'est qu'un jour, Dieu nous a promis qu'il va revenir et qu'il va intervenir contre le mal de manière souveraine et gracieuse, d'une certaine manière. Il va intervenir contre le mal, il va le faire disparaître et il va avoir compassion à partir de ce jour-là. Il va avoir compassion, il l'a encore pour nous, mais à partir de ce jour-là, il va avoir compassion de ceux qui se confient en lui. Il lui promet de détruire le pouvoir du mal. C'est ça l'espoir que Dieu offre à son peuple sous Malachie. Et c'est encore cet espoir-là qu'il nous offre à nous aujourd'hui encore en 2016. Dieu nous offre l'espoir qu'un jour, tout mal va être détruit et il va avoir compassion de nous. 400 ans plus tard, après Malachie, après c'est que cette promesse-là a été donnée, Dieu va manifester cet espoir-là à travers une personne qui porte le nom de Jésus-Christ. On a vu plusieurs indices dans le livre de Malachie qui pointent vers Jésus, qui dit que en ce Jésus-Christ, en ce Seigneur qui va venir nous visiter pour nous guider, guérir et juger le monde, Dieu va établir un monde nouveau. Il va faire justice aux injustifiés, à ceux qui ont subi le malheur et la maladie, les abus dans leur vie. Il leur promet qu'il ne tient pas le mal comme toujours vainqueur. Un jour, il va le détruire. Et Jésus a prouvé, par sa mort et par sa résurrection, qu'il a détruit le mal. On peut cependant se poser cette question-là. OK, Miguel, je comprends que Dieu m'offre un espoir qu'un jour, il va détruire le mal. Mais qu'est-ce qui me dit que cet espoir-là que Dieu me donne, qu'est-ce qui me dit qu'il est fiable? Qu'est-ce qui me dit qu'il est réel? Qu'est-ce qui me dit qu'il ne s'agit pas d'un rêve ou d'une illusion, d'un bourrage de cerveau que le Seigneur essaie de me faire croire, mais dans le fond, c'est juste un souhait puis un désir qu'il a, mais il contrôle rien. Là. On le voit dans le monde dans lequel on vit. C'est le mal, il est loin d'être vécu. Donc, qu'est-ce qui me prouve que cet espoir-là que Dieu me donne, il est vraiment vrai puis que je peux m'y confier? Puis que je peux marcher dans la foi malgré le fait que dans la vie, il y a des choses qui ne fassent pas mon affaire puis que ça fonctionne comme je ne le voudrais pas. Mais on va juste ce matin essayer de répondre à cette question-là. Qu'est-ce qui me prouve que la réalité de l'espoir que Dieu m'offre est bel et bien vrai? Je vous invite à aller dans vos Bibles, s'il vous plaît. Soit papier, soit iPad, ou avec vos téléphones intelligents. Allez, s'il vous plaît, dans Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament, tout juste avant les Évangiles, Malachie au chapitre 4. Ce matin, il y a seulement trois versets, donc les trois derniers versets de l'Ancien Testament, donc je ne prendrai pas la peine de faire venir un lecteur en ce moment, je vais faire la job ce matin. Alors, Malachie, chapitre 4, verset 4, voici ce que nous dit le texte. Dans la édition Nouvelle Genève, Malachie, chapitre 4, verset 4. « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Voilà comment se termine le livre de Malachie. Voilà comment se termine cette période dans la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament, tout juste 400 ans avant Jésus. Si vous tournez quelques pages plus loin, vous tombez dans le récit maintenant des évangiles, où est-ce qu'on va nous raconter l'histoire de Jésus. Mais bien sûr, tout ça, c'est 400 ans auparavant Jésus. Et là, ici, on voit vraiment que Malachie essaie de dire à son peuple, « Je vous ai donné un espoir. Dieu vous donne un espoir, mais voici en quoi vous pouvez compter sur cet espoir que vous attendez. Croyez-y parce que, et d'une certaine manière, on pourrait résumer le texte qu'on vient de lire dans la phrase suivante, on peut croire dans l'espoir que Dieu nous donne de voir le mal détruit parce que c'est Dieu qui dirige les ficelles du temps. C'est Dieu qui dirige les ficelles du temps. L'espoir qu'il offre de voir le mal vaincu est donc digne de confiance, car il est fondé sur cette intervention souveraine et son alliance de grâce. L'espoir que Dieu nous offre est digne de confiance, car il est fondé sur ses interventions souveraines et son alliance de grâce. C'est pour cette raison-là qu'on peut croire qu'un jour le mal va être détruit. C'est pour cette raison-là que je peux croire qu'un Dieu qui est justice et saint va un jour faire compassion à son Église, même si on n'est pas encore complètement innocent de tout mal. En d'autres mots, ce que Dieu essaie de dire ici, c'est que l'espoir que je vous offre, ce n'est pas juste un souhait ou un désir de ma part, c'est une réalité que je tiens entre mes mains. C'est quelque chose que j'ai accompli dans le passé, c'est quelque chose que je suis en train de continuer à faire pour vous, puis c'est quelque chose que je vais continuer à faire pour vous dans le futur. Croyez-y. Et la première chose que Malachie nous dit, c'est que l'espoir que Dieu nous offre repose sur une alliance de grâce qui a déjà été donnée à son peuple dans le passé. Ce qu'on voit ici, dès le verset 4, c'est que bien avant Malachie, plusieurs siècles auparavant, Dieu avait fait sortir d'esclavage son peuple d'Égypte. Vous vous souvenez les fameuses plaies d'Égypte où Dieu a fait sortir son peuple de la tyrannie. Il l'a envoyé dans le désert. Il l'a envoyé dans le désert pourquoi? Pour s'engager envers lui. Pour passer une alliance de grâce avec lui. Souvenez-vous les 10 commandements où est-ce que Dieu commence simplement la citation en disant « Je vous ai fait sortir du pays d'Égypte, pas parce que vous le méritiez, mais parce que je vous ai regardé comme précieux, puis j'ai décidé de faire de vous mon peuple. Je vais m'engager envers vous, puis je vais vous donner des lois. Les lois de Moïse, dont fait partie les 10 commandements. Et pourquoi est-ce que Dieu a donné ces lois-là à son peuple? Eh bien, pour que le peuple apprenne à marcher comme le peuple de Dieu, différemment des autres nations. Et ce que Dieu dit, d'une certaine manière, c'est « Dans Malachie, je vous ai donné l'espoir de voir le mal détruit. Vous voulez voir le mal détruit? Eh bien, souvenez-vous de ma loi. » C'est ça que dit Malachie au verset 4. Regardez ce que nous dit le verset 4. « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. » Ici, on est plusieurs siècles après l'alliance de grâce que Dieu avait faite avec le peuple d'Israël au désert. Et ce que Malachie dit, c'est, vous voulez voir le mal détruit? Vous voulez qu'un jour, Dieu, là, il vous fasse sortir indemne quand il va intervenir contre le mal? Vous voulez que l'espoir qu'il vous donne soit pour vous une réalité? Eh bien, premièrement, souvenez-vous de ce qu'il a fait pour vous. Souvenez-vous de l'alliance avec laquelle il s'est engagé envers vous dans le passé. Souvenez-vous-en pour vous en souvenir, non seulement pour vous en souvenir, mais pour appliquer ces lois-là. Le terme hébreu ici est très clair. C'est oui, le souvenir. Israël est appelé à un souvenir de mémoire, ce souvenir de la loi, non seulement comme étant un reminder nécessairement collectif, mais aussi pour l'appliquer collectivement, que cette loi-là devienne vivante dans leur vie. Qu'est-ce que la suite de l'histoire nous dit? Est-ce qu'Israël s'est souvenu de cette loi-là, de ce que Dieu avait fait pour eux pour que l'espoir qu'il leur offre soit pour une réalité? Bien, on voit qu'Israël n'a pas été à la hauteur de la situation par la suite. Le cœur de l'être humain étant ce qu'il est, et la mémoire étant une faculté qui oublie. Probablement que vous êtes à même de le voir comme moi, là, avec l'âge qui avance, là. La pompe à neurones n'est pas aussi active. Hein? Notre mémoire en prend souvent moins. Souvent, je suis à l'accueil le dimanche matin, on rencontre des nouvelles personnes, on leur demande leur nom. Si c'est la première fois que je les rencontre, c'est sûr que la semaine prochaine, je vais avoir beaucoup de chance de ne pas me rappeler de leur nom. Pourquoi? Parce qu'il y en a 4-5 qu'il faut que je me souvienne dans ma tête, puis si je vais en enlever un, le disque dur, il est plein. Comprenez-vous? Donc, si je veux rajouter un nouveau nom, il faut que j'en enlève un. Puis pour le rajouter, celui-là, mais c'est que celui que j'enlève, bien, je ne veux pas l'enlever. Alors, la mémoire est une faculté qui oublie. Et Dieu est au courant de tout ça, connaît notre incapacité à suivre sa loi. Il savait que son peuple allait à une faillite en lui disant, « Souvenez-vous-en, mais en même temps, je sais que vous allez faillir à vous en souvenir. » Donc, qu'est-ce que Dieu a décidé de faire? Bien, ce que Dieu a décidé de faire, c'est d'au lieu d'intervenir contre le mal et détruire son peuple par la même occasion qui faisait le mal, eh bien, voici ce qu'il a décidé de faire. Et c'est ça la parole d'Évangile, c'est qu'il a décidé lui-même d'accomplir la loi qu'il a demandé à son peuple de se souvenir. En envoyant son fils Jésus-Christ sur la terre, 400 ans après Malachie, Dieu a envoyé son fils mener une vie juste et parfaite. Et toute la loi de Moïse a été accomplie. Jésus-Christ a vécu une vie sans tâche et nous l'a ensuite offerte sur la croix pour prix de notre faute, pour prix de notre incapacité à ne plus faire le mal. Et qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Jésus-Christ est ressuscité et il a terrassé. Il a vaincu le pouvoir du mal et du péché. Il a littéralement terrassé, il a rivé le clou du cercueil du mal. Voilà comment Dieu nous donne aujourd'hui la réalité d'un espoir qui est encore à venir. Et ce qu'il nous dit, c'est que ce qui est accompli à la croix, la loi que j'ai accomplie pour vous puis que je vous offre en retour de votre foi en moi, croyez-y parce que dans l'avenir, je vais revenir pour accomplir totalement ce qui a été commencé à la croix. Ce mal-là, il a été vaincu à la croix. Maintenant, marchez par la foi, croyez-y, parce que dans l'avenir, je vais encore intervenir comme je l'ai fait à la croix pour que ce mal-là soit définitivement vécu. Donc, aujourd'hui, si on a à se souvenir de quelque chose en tant que chrétien par rapport à la loi de Moïse, ben c'est quoi? C'est le fait que ce souvenir-là de la loi pointe directement vers celui de la croix. Le souvenir de la loi de Moïse, comme Malachie a invité le peuple à le faire, pointe aujourd'hui vers Jésus-Christ qui a accompli toute la loi de Moïse sur la croix. Vous savez, au Québec, on a une devise. Vous souvenez de la devise des Québécois? Je me souviens. Je me souviens de quoi? Je me souviens de quoi exactement? C'est ça le défi qu'il y a en nous et dans lequel j'ose ce matin nous lancer comme proposition, c'est que de quelle manière est-ce que je me souviens de Dieu dans tout ce qui m'est arrivé dans la vie, dans tout ce qui va m'arriver? Est-ce qu'il y a un souvenir en dedans de moi qui me dit que le meilleur est à venir? Est-ce que vous y croyez sincèrement que Dieu est capable de faire de votre avenir quelque chose de glorieux? Où le mal va être détruit? Parce que c'est ça que Dieu nous appelle. Je l'ai accompli dans le passé en attendant que ça soit complètement manifesté dans l'avenir. Croyez-y. Croyez que je suis capable d'intervenir, moi, le maître souverain de l'univers. Je dirige les ficelles du temps et ce que je vous promets, j'ai le pouvoir de l'accomplir. De quelle manière est-ce qu'on se souvient de Dieu? Imaginez une seconde que ce que la manière dont je me souviens de Dieu, c'est peut-être l'affront ou le manque de respect que j'ai subi, puis que Dieu a permis cette semaine, puis que envers soit mon ado, mon patron, ma conjointe, mon voisin, qui m'ont manqué de respect, c'est difficile, j'ai été troublé, j'ai été meurtri, j'ai subi quelque chose que j'aurais pas dû subir, puis c'est Dieu qui a permis que je subisse cette injustice-là, que mon enfant de 5 ans ne m'obéisse pas, ou que mon ado de 16 ans m'envoie promener, ou que mon patron refuse de me donner l'augmentation de salaire que ça fait 6 mois qu'il me demande. C'est injuste, Dieu. Je mérite cette chose-là. Je mérite du respect. Je mérite cette augmentation-là qui m'a été promise, puis ça vient pas. OK, je t'en veux. Je t'en veux parce que j'ai subi quelque chose qui a été injuste. Tu veux pas vraiment mon bien, parce que si tu voudrais mon bien, tu ferais que les choses que je désire arrivent. Et là, mon souvenir envers Dieu, il peut devenir certainement amer. Pourquoi? Parce qu'il est ciblé sur le fait que Dieu a permis que tel malheur, telle injustice, telle incompréhension de la vie arrive. Pourtant, regardez ce que nous dit l'Évangile de Jean au chapitre 6. Dans Jean chapitre 6, on voit que des gens commencent à s'éloigner de Jésus parce que ce que Jésus dit, ça ne fait pas leur affaire. Ça les trouble. Ce que Jésus leur dit, c'est trop radical, c'est trop net. Ils sentent que c'en est trop pour eux. Ils ne sont pas prêts à accepter ce que Jésus leur dit. Donc, ou ce que Jésus permet. Et là, qu'est-ce qui arrive? Bien, ils s'éloignent de lui. Mais regardez ce que nous dit le verset 67 au chapitre 6. Je vais vous tourner dans Jean 6. Je vais vous laisser tourner pour ceux qui ont leur Bible papier comme moi. Jean 6, au verset 67, nous dit ceci. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons connu, et nous avons cru, et nous avons connu, que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Intéressant ici de voir que Pierre décide de se souvenir de Jésus, mais qui aurait certainement pu s'en souvenir comme quelqu'un qui le trouble, qui dit des choses qui ne fait pas son affaire, des choses qu'il trouve injustes, puis il aurait pu s'en aller comme les autres. Il aurait pu dire, « Seigneur, je ne comprends pas ce que tu dis, c'en est trop pour moi, c'en est trop pour ma petite vie. Moi, je préfère me mettre de côté parce que c'en est trop pour moi. Là, ça ne fait pas mon affaire, ça ne rentre pas dans mon code de pensée ce que tu es en train de dire. C'est trop, là. C'est trop. Tu me demandes de pardonner 77 fois, 7 fois celui qui est en train de m'offenser là, puis qui a péché contre moi. Ça, c'est trop pour moi, là, je ne suis pas capable. Donc, je vais m'éloigner de toi. » Et que, non, qu'est-ce qu'il dit Pierre au juste? Il dit, « Seigneur, si je ferais ça puis que je m'éloignerais de toi parce que ce que je subis, c'est injuste, vers quoi est-ce que je me tournerais de plus de valeur que tu es celui qui a la parole de la vie? Tu es la parole, la loi de Dieu incarnée. Tu es la loi de Dieu accomplie. Tu es la loi de Moïse. Tu es en train, tu es parfait. Vers qui est-ce que j'irais? Comment le fait de m'éloigner de toi parce que je trouve la vie injuste, comme c'était souvent le cas en Israël envers Dieu, qui trouvait souvent Dieu injuste pour différentes occasions, puis ça les troublait. Mais Pierre, il dit ici, non, je veux me souvenir de toi pour ce que tu es vraiment. La croix n'est pas encore arrivée. La croix n'est pas encore arrivée, mais on voit ici que Pierre déclare que Jésus est le seul espoir qui a été manifesté dans le passé, pour pouvoir prouver que l'espoir que Dieu me donne, c'est une réalité, que je peux vraiment me confier. Ce n'est pas juste un mythe ou une illusion, c'est quelque chose qui va arriver. Vous vous souvenez des dernières paroles que Jésus a dit à ses disciples lors du dernier repas qu'il a pris avec eux. Il leur dit, « Prenez, ceci est mon corps donné pour vous. » Et la suite, « Faites ceci en mémoire de moi. » Souvenez-vous. Souvenez-vous de l'alliance passée qui, pour Israël, à ce moment-là, sous Malachie, était la loi, mais qui, pour nous, aujourd'hui, en tant qu'Église de Jésus-Christ, c'est la croix. Comment est-ce que je me souviens de cette croix-là que Dieu a portée pour moi? Le fait que mon souvenir soit centré sur Dieu, non pas sur ce que j'ai subi puis ce qu'il a permis, mais plutôt ce que lui a porté à ma place. Le manque de respect que peut-être je peux subir de la part de quelqu'un, Christ en a pris le poids. Dans ce que j'ai subi, mais dans ce que moi aussi je fais subir aux autres. Et en me souvenant de cet évangile-là, de cette pensée-là, de ce qui est arrivé à la croix où Jésus-Christ a scellé de son sang la nouvelle alliance qui l'a poussé, la loi de l'Ancien Testament, un peu plus loin en l'accomplissant lui-même. Je peux me garantir le fait que dans le passé, Dieu est intervenu non seulement au désert envers Israël, mais aujourd'hui envers son Église à la croix. Et de me dire, Seigneur, t'as porté sur toi innocemment des fautes qui ne te revenaient pas. Maintenant, je veux me souvenir de ça, que je suis lié à toi par grâce, que quand je me lève le matin, je me renouvelle avec cette pensée-là de la croix et non pas de la performance ou de la tâche à accomplir, mais que ce que je désire pour l'avenir trouve sa réalité dans ce qui a été accompli dans le passé, à la croix. Souvenons nous-en, les amis, et renouvelons cette pensée de l'Évangile à chaque matin que l'on se lève. L'écrivain français Honoré de Balzac, peut-être qu'il y en a parmi vous qui le connaissent, probablement, parmi les jeunes peut-être un peu moins, la littérature classique c'est un peu moins populaire ces temps-ci, Honoré de Balzac a déjà dit ceci, « L'espoir est une mémoire qui désire. » L'espoir, c'est une mémoire qui désire. Si je désire dans ma vie que le mépris, le rejet ou que tel habit que j'ai subi soit réparé, eh bien, mon espoir, ça va être qu'un jour, justice me soit faite. Vous êtes d'accord avec moi? Si dans le passé, j'ai subi quelque chose qui ne fait pas mon affaire, eh bien, mon espoir, ça va être qu'un jour, cette injustice-là que j'ai subie, elle soit réparée. Mais si ça n'arrive pas ici, si ça n'arrive pas sur terre, que cet espoir-là ou que cette injustice-là que j'ai subie soit réparée, qu'est-ce qui va arriver dans ma tête? Justice ne m'a pas été faite. J'ai subi quelque chose dans le passé qui m'a troublé. J'ai subi un abus sexuel quand j'étais enfant. Puis ma justice, c'est que le coupable soit mis en prison puis qu'il paye pour ce qu'il m'a fait. Mais si ça n'arrive pas, il va y avoir un trouble, un sentiment de vengeance, d'amertume, d'injustice qui va rester au fond de mon cœur. Et c'est tout à fait normal que justice, à ce moment-là, dans notre cœur, on a l'impression qu'elle n'a pas été faite. Et c'est exactement cette injustice-là que Jésus-Christ a pris à la croix. Justice n'a pas été faite pour lui. Il a pris sur lui ce que j'ai subi. Il a pris sur lui ce que j'ai fait subir aux autres à la croix. Et c'est ce dont il veut que je me rappelle. Malgré tout le temps, le trouble que ça peut m'orienter parfois, Jésus-Christ m'offre une plateforme où tout ce que j'ai subi, il me dit, dépose-les sur mes épaules. Je suis assez costaud pour les porter. Maintenant, ça va transformer nos relations. Mon souvenir de ce qui s'est passé va me donner un nouvel espoir. Que ce que j'ai subi va un jour être révélé un grand jour et que Dieu va intervenir. Il l'a prouvé au désert dans le passé, mais un peu plus que ça, Malachie va également un peu plus loin. Il veut non seulement que mon souvenir soit habité parce qu'il s'est passé à la croix, mais il veut également me faire prendre conscience que l'espoir que Dieu offre, c'est une alliance de grâce qu'il va rendre parfaite dans l'avenir. L'espoir que Dieu offre est une alliance de grâce qu'il va parfaire dans l'avenir. Une chose qu'on peut observer dans Malachie, et notamment un peu partout dans l'Ancien Testament, c'est que Dieu intervient constamment. Ce n'est pas un être statique, c'est un être dynamique. Et une des choses dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, c'est que Dieu intervient constamment. Regardez ce que nous dit le verset 5 de Malachie. Vous pouvez retourner avec moi. Au verset 5 de Malachie, voici ce que nous dit le texte. « Voici, Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que l'intervention de Dieu ne s'arrête pas dans le temps et qu'avant qu'intervienne le jour où le mal va être détruit, il va faire quelque chose pour nous redonner espoir. Il va nous envoyer Élie. Il savait que son peuple n'était pas capable de se souvenir parfaitement de la loi et que son espoir pouvait peut-être perdre un peu d'intensité. Donc, je vais vous envoyer Élie. Je vais vous envoyer un prophète qui est monté au ciel plusieurs siècles auparavant pour pouvoir vous redonner espoir. Et quand est-ce que je vais faire ça? Je vais vous l'envoyer dans l'avenir. Parce qu'ici, le texte nous parle très bien au futur. Il y a plusieurs théories qui existent sur ce qui est cet Élie. Jésus va dire plus tard que cet Élie, c'était Jean-Baptiste. Hein, c'est lui que, vous souvenez, au chapitre 3 dans Malachie, on nous parle d'un messager qui va venir avant que le Seigneur revienne lui-même vers Israël. Et il semble ici que c'est cet Élie et ce Jean-Baptiste qui est ce messager du chapitre 3 et que Jésus va dire à ses disciples, ben, cherchez pas, là, Élie, c'était Jean-Baptiste. C'est lui qui est venu avant moi pour préparer le chemin pour le peuple auquel je suis en train de donner un espoir nouveau. Élie, par contre, pas Élie, excusez-moi, mais Jean-Baptiste va dire dans les mêmes évangiles que Élie, c'est pas lui. Il va le dire textuellement. On va voir ça un peu plus loin. Il y a même des gens qui croient que cet Élie que Dieu promet d'envoyer, mais c'est un des deux témoins qu'on retrouve dans l'Apocalypse avant les temps de la fin. La question qu'il faut se poser ici, c'est que le jour grand et redoutable dont parle ici le verset, c'est lequel? Est-ce que c'est le jour grand et redoutable où Jésus est mort à la croix et puis que la victoire sur le mal a été amorcée? Ou c'est le jour grand et redoutable qui va venir lorsque Jésus va revenir à la fin des temps et que là, il va envoyer Élie? Eh bien, les deux événements peuvent facilement se joindre ensemble. Ils ne s'excluent pas mutuellement. Et c'est difficile ici de savoir exactement de quel jour on parle. Mais ce qui est important de retenir ici, parce que ça peut être mélangeant un peu, ce qu'il faut souligner, c'est que Jésus déclare ici qu'il n'en a pas encore terminé avec l'espoir qu'il nous donne. Il n'en a pas encore terminé. Il est en train encore de le construire. Il est encore en train de travailler à ce que ce qui a été produit à la croix, eh bien, un jour, ça puisse éclater totalement pour que le mal soit détruit. Et un des textes qui peut certainement nous aider à comprendre comment la croix s'insère dans tout ça se retrouve dans l'Évangile de Luc. Vous pouvez aller dans l'Évangile de Luc, s'il vous plaît, au chapitre 9. Luc, chapitre 9, au verset 28. Et voici ce qu'on lit dans ce texte. Luc, chapitre 9, verset 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. C'est intéressant, ici, on retrouve les deux mêmes personnages que Malachie nous parle 400 ans plus tôt, Élie et Moïse, qui sont en train de parler avec Jésus de l'avenir. Et ici, c'est très clair. Jésus, quelques versets auparavant, il dit à ses disciples que bientôt il allait souffrir, qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter. Donc, ce qui semble clair ici, c'est que ce que dont Moïse, Jésus et Élie parlent ici, c'est quoi? C'est de la croix. C'est de l'endroit, de l'événement. Ce qu'ils parlent, c'est de l'intervention où Dieu va intervenir pour leur donner espoir au peuple et détruire le mal. C'est ça dont Élie, Jésus et Moïse sont en train de parler. Ce dont il était en train de parler, c'est que ce qui a été débuté à la croix ne peut qu'un jour se réaliser totalement. Et ce qui a été débuté à la croix, c'est la victoire contre le mal. L'espoir que nous avons qu'en Jésus-Christ, tout mal soit détruit, notamment celui qui est en dedans de nous. Notamment celui qui est en dedans de nous, quand mes enfants m'en font voir de toutes les couleurs. Je peux vous le dire, là, depuis que ma petite fille Julia est arrivée, là, parfois la famille m'en fait voir de toutes les couleurs. C'est super édifiant. Il y a des matins, c'est super exaltant. Il y en a d'autres que seuls les moins. Et je suis capable du pire mal envers mes enfants. Que ce soit au niveau de l'impatience, au niveau de ma tolérance envers eux. Quand ça ne fait pas mon affaire, papa peut facilement lever le ton. J'ai besoin de cette intervention-là dans mon cœur de la croix. Et me souvenir de cet évangile-là qui me permet d'être un père aimant pour mes enfants. Et non pas quelqu'un qui veut que chaque chose soit à sa place et à la manière dont papa est le moment que lui-même a décidé que ce soit. On vit dans un monde troublé où le malheur peut nous frapper n'importe quand. Mais ce n'est pas parce que le monde est ainsi que ça nous donne la garantie que l'espoir que Dieu nous donne est un échec. L'espoir que Dieu nous donne n'est pas un monde d'échecs. Il nous demande d'attendre. J'ai commencé quelque chose à la croix. Je suis en train d'en parler avec Moïse ici et avec Élie sur cette transfiguration. Là, maintenant, souviens-toi-en. Et pour te nourrir que l'espoir qui va arriver dans l'avenir, d'espérer que je peux intervenir encore pour avoir la victoire totale et définitive contre le mal. Le passé, ici, est garant de l'avenir. Dieu, à la croix, a vaincu le mal par sa résurrection pour qu'on puisse marcher par la foi, nous attendre à lui et nourrir cet espoir-là que dans le futur, il va réintervenir pour que sa victoire sur le mal soit définitive et qu'on en voit toute l'éclatante puissance. Sur quoi est-ce que tu fondes ton espoir ce matin? Peut-être est-ce que c'est sur ta famille, tes enfants, ton REER, ton travail. Peut-être que c'est sur les possessions matérielles que tu donnes. Peut-être c'est sur le fait que simplement bien, la vie va bien s'occuper de toi. On ne sait pas ce que la vie a en réserve pour nous. Ça peut être des choses délicieuses, autant que percutantes. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu nous promet que ce qui va arriver dans l'avenir, à la fin de chaque chose, c'est la même chose que ce qui va arriver de ce qui est déjà arrivé. Et on doit se souvenir de notre passé par rapport à Dieu, pour nourrir notre avenir, se souvenir de cette loi et de cette croix que Jésus a portée, pour dans les bons et les mauvais jours, toujours espérer la réalité de ce Messie que Dieu nous a promis et de ce prédécesseur qui est Jean-Baptiste qui nous a ouvert le chemin. Dernier point ce matin, on vient de voir que l'espoir que Dieu nous offre repose sur quelque chose qu'il a fait dans le passé, dans le désert et à la croix. Ça repose sur quelque chose qu'il va faire dans l'avenir. Pour Israël, simplement le fait d'avoir Jésus, c'était l'avenir. Pour Moïse et Élie, c'était quand ils parlaient sur la montagne avec Jésus, c'était le fait de la croix. Mais pour nous, cet avenir-là, c'est ce qui s'en vient. Demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, la décennie prochaine, il va réintervenir pour revenir un jour et juger toute chose. Et ce que Dieu nous dit, c'est que quand cet Élie-là va revenir pour que le jour grand et redoutable arrive, il y a quelque chose qui va arriver. C'est que l'espoir que Dieu nous offre repose sur une alliance de grâce qui restaure ce qui a été brisé. Au chapitre 2 du livre de Malachie, on voit que Israël a décidé de faire quelque chose dans la période de Malachie. Il était entouré d'autres peuples étrangers qui adoraient d'autres dieux. Et Israël a décidé de s'unir par des mariages mixtes à ces peuples-là. Et vous vous souvenez-vous comment Dieu a considéré à ce moment-là l'alliance qu'il avait déjà passée dans le désert beaucoup plus avant avec Israël? Il a considéré son alliance comme étant souillée. Il a considéré son alliance comme étant profanée, brisée. J'ai passé une alliance avec vous au mont Sinaï, au désert. Je vous ai fait de vous mon peuple pour que vous viviez comme mon peuple. Puis vous décidez de vous unir à d'autres peuples pour voir si l'herbe est plus verte ailleurs que dans ce que je suis en train de vous offrir. Êtes-vous malade? Vous essayez de voir ailleurs ce que moi je vous offre de plus merveilleux. C'est comme si Pierre dit, à qui irions-nous? Soit les paroles de la vie. Mais Israël se dit, ben, on va regarder voir ailleurs si cette vie-là ne serait pas plus agréable ailleurs par des mariages avec d'autres nations. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, le tissu familial à l'époque de Malachie commence à se fragiliser. Les familles commencent même, il y a des divorces qui sont en cause. Même un peu avant, même à l'époque de Néhémie, il y a des femmes qui ont été répudiées. Néhémie a demandé au peuple de répudier les femmes, d'envoyer les enfants avec eux. C'est comme si ça a créé des orphelins. La famille, à ce moment-là, était extrêmement affaiblie dans son tissu qui les liait les uns aux autres. Pourtant, voici ce que Dieu a promis à son peuple dans ce contexte-là de bris puis de relations qui étaient plus difficiles les uns que les autres. Dieu a promis qu'en envoyant Élie, il allait faire quelque chose. Regardez ce que nous dit le verset 6. Pour retourner dans Malachie, au verset 6, il nous dit, et là c'est à propos de Élie, donc Jean-Baptiste, « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. » D'une certaine manière, ici, les enfants, c'est les gens sous Malachie, puis les pères, c'était leurs ancêtres. Et ce qu'il leur dit ici aux gens de Malachie, c'est « Je vais ramener vos cœurs vers l'alliance que vos pères avaient et qui suivaient avec Dieu pour que vous vous en souveniez. Je vais faire une réconciliation générationnelle entre vous. » Et le terme ici qu'il faut utiliser, c'est le terme sur lequel il faut insister, c'est le terme « il ramènera ». Et c'est intéressant, c'est le même texte, le même terme qui est utilisé dans Luc lorsqu'on nous parle de Jean-Baptiste. Allez dans Luc chapitre 1. Dans Luc chapitre 1, on nous parle de Jean-Baptiste, Malachie nous parle de la même manière de Jean-Baptiste. Lorsqu'il dit au chapitre 1, au verset 15, en parlant de la naissance de Jean-Baptiste, « Il sera grand devant le Seigneur, il boira ni vin ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance de qui? La puissance d'Élie. » Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Il semble ici très clair que ce que Élie et Jean-Baptiste avaient de commun, c'est qu'ils ont ramené le peuple à quelque chose qui les ont réconciliés, oui, avec Dieu, mais également entre eux, entre leurs générations. Et une des choses qui est très claire dans le ministère de ces deux hommes, Jean-Baptiste et Élie, c'est qu'ils ont tous les deux prêché à leur époque respective la repentance. Et le mot ici est très près du mot « ramener ». Le mot « ramener » ici en hébreu, c'est un terme de « retourner », de faire un volte-face, de faire un virage en U. Détourne-toi de la voie où tu t'en vas pour te détourner ailleurs. Et c'est ça la repentance. Ici, le terme est très, très, très spécifique à l'aspect de la repentance. Et la personne de Jésus ici est également centrale. Lorsque Dieu nous appelle à nous repentir, et lorsque ça se fait, il y a quelque chose qui arrive. Dieu m'invite à rentrer dans une nouvelle famille. Dieu m'invite à me tourner vers son Fils, Jésus-Christ, qui est le ciment d'une nouvelle communauté où ce qui a été brisé est restauré. Il y a un passage notamment très clair à ce sujet-là à propos de Jésus dans Matthieu. Laissez-moi tourner quelques instants. Dans Matthieu au chapitre 12, au verset 46, voici ce qu'on nous dit à propos de Jésus, ce que Jésus dit à propos de lui-même. Jésus s'adressait à la foule. Voici sa mère et ses frères, évidemment de sang, qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Et cette volonté-là par laquelle Dieu s'unit à nous familialement ne passe que par l'aspect de la repentance. Et si je peux vivre aujourd'hui cet espoir-là que Dieu me donne de voir le mal détruit, il ne s'agit pas juste de penser à une loi que Dieu m'a donnée dans le passé au désert, à une loi que Dieu a accomplie à la croix, mais dans le fait que tout ça crée en moi des relations transformées, non là seulement avec Dieu, où il me considère comme réconcilié avec lui, parce que Dieu a porté le poids de mes péchés, mais ça transforme mes relations avec les autres, avec ma famille. Moi ici, je suis un peu comme Yannick nous disait il y a comme deux semaines. J'ai plusieurs mamans. J'ai plusieurs papas. J'ai plusieurs grands frères. Ça tombe bien, j'en ai jamais eu de grands frères. Je suis le plus vieux de ma famille. Puis je suis tellement content d'avoir des grands frères à l'Église de l'Espoir. Où est-ce que je peux prier avec eux et créer une solidarité ensemble qui me donne espoir en l'avenir? Ou est-ce que je peux considérer que tel frère qui vit une difficulté, eh bien, je peux l'aider. Et que si j'en vis une, eh bien, il peut m'aider en retour et qu'on puisse prier ensemble et vivre des relations transformées par la grâce de l'Évangile. La personne qui est assise à côté de toi ce matin, est-ce que tu la connais? Est-ce que tu connais son nom? Est-ce que tu y as déjà parlé? C'est comme ça que des relations se transforment entre nous, en communiquant, en se considérant frère et sœur. Peut-être que le frère ou la sœur qui est assis à côté de toi, c'est quelqu'un avec quelque chose qui est brisé. Souviens-toi de la croix, que ce qui a été brisé, peut-être que tu es ignoré par cette personne-là qui est à côté de toi. Mais cette ignorance-là dont tu es la victime, ou peut-être l'auteur, Dieu a porté le prix à la croix. Et ça ne m'empêche pas, parce que je suis ignoré ou rejeté, de perdre l'espoir que Dieu me donne. Non, il a porté tout le poids et le châtiment sur la croix pour me donner un espoir nouveau. Récemment, mon garçon, puis je vais vous laisser là-dessus ce matin, mon garçon Louis-Jacob, qui a 11 ans, s'est fait un ami à l'école, vraiment un bon ami, un ami congolais. Et ils sont vraiment très différents l'un de l'autre. Ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas le même accent, ils n'ont pas la même alimentation, ils n'ont pas la même stature non plus, ils n'ont même pas la même couleur de peau, pas nécessairement la même couleur exacte de yeux. Et si on vivait dans ce monde aujourd'hui dans lequel on vit, je nous dirais, ben ces deux personnes-là, leur amitié sont liées à un échec, à un bris, parce qu'il y a trop de choses qui les différencient l'un de l'autre. Ils vont s'ignorer plutôt qu'être ensemble. Puis pourtant, c'est le contraire qui arrive. Ils sont tellement solidaires l'un l'autre, malgré leurs différences, malgré ce qui risque d'être brisé entre eux à cause de leurs différences. Mais ils passent par-dessus ça, puis ils solidarisent tellement ensemble, notamment dans le fait d'agacer leurs sœurs respectives. Là, ça, ils sont bien forts. Ils sont très solidaires là-dedans, là. Ça, je peux vous dire, ils ont même composé une chanson hip-hop pour eux, puis les taquiner, là. C'est assez drôle de les voir. Mais cet exemple-là est vraiment un exemple pour moi. Dans le sens que j'ai vu leurs différences s'unifier ensemble pour produire quelque chose de plus constructif que le rejet ou l'indifférence. Et c'est à ça que Dieu nous appelle dans l'Église. Et je suis content de voir qu'on grandit en tant qu'Église là-dedans. De utiliser nos différences pour faire vivre l'Évangile en nous plutôt que s'ignorer les uns les autres et se considérer comme étant une même famille. Oui, avec notre Église particulièrement, mais même dans une certaine mesure, même avec notre quartier, avec le fait d'être accueillants les uns avec les autres et d'utiliser nos différences, non pas pour nous diviser, mais nous unir. C'est ce qui nous donne espoir en l'avenir. Est-ce que cet espoir-là de vivre l'Église de l'Espoir comme une famille fait partie de ta vie? Comment est-ce que tu vois la personne assise à côté de toi? Est-ce que tu la vois comme cette frère ou ce sœur que Dieu a mis expressément à côté de toi pour te donner espoir en cet avenir que des jours meilleurs vont être arrivés, que le mal va être détruit, que non seulement cela a été fait dans le passé, à la croix, et que ça va être fait dans l'avenir lorsque Jésus va revenir. Mais aujourd'hui même, comment que je vis cette réalité-là? pour vivre solidairement l'un de l'autre. L'écrivain russe Fyodor Dostoïevski a déjà dit ceci. Vivre sans espoir, c'est cesser de vivre. Il est où votre espoir ce matin? Et si vous avez un espoir, est-ce que vous êtes sûr qu'il va résister au jour où Dieu va intervenir? Parce qu'il a déjà prouvé dans le passé qu'il va intervenir. Puis il va le refaire. Est-ce que votre espoir va résister à ce jour-là? Parce que le peuple, ici, on voit dans Malachie que ça ne se termine pas très bien. Hein? On dit, oui, je vais ramener les cœurs des enfants vers leur père, puis des pères vers leurs enfants, de peur que je ne frappe le pays d'interdit. Si on ne vit pas en tant que famille, il va arriver quelque chose de dramatique pour le monde dans lequel on vit. Est-ce que votre espoir sur lequel vous vous fiez va vous faire vivre vraiment pour ce que l'Évangile nous demande d'être? Dieu nous offre un espoir. Est-ce qu'on en vit la réalité à travers la loi de Moïse qui a été accomplie à la croix et à travers nos relations les uns avec les autres, comme une famille qui vit vraiment ensemble et qui s'intéresse les uns aux autres? Richard Roule nous a donné récemment le défi de connaître le nom des enfants dans l'Église. Est-ce que vous avez appris des noms d'enfants dans l'Église? Je vous donne un défi pour qu'on se laisse là-dessus. Que dans le prochain mois, chacun d'entre nous, on puisse connaître le nom ou l'occupation ou le lieu où il réside, donc nom, occupation et lieu où il réside, de 3 personnes qu'on ne connaît pas dans l'Église. Ce matin, on n'est pas tant que ça, là, on est quand même un peu moins nombreux ce matin, mais je vous donne ce défi-là pour le prochain mois, de connaître, juste à travers une discussion, de 3 personnes qu'on ne connaît pas. Le nom, l'occupation et où il réside. Et ça va créer, après ça, un désir d'aller chercher d'autres informations pour vivre en tant que famille. Donc, c'est bon pour vous? 3 choses très claires pour le prochain mois sur 3 personnes qu'on ne connaît pas. Nom, occupation et lieu où il réside. Et si c'est trop pour vous, dit Miguel, ça c'est trop pour moi, je n'ai pas la mémoire pour ça, une personne. C'est bon? Une personne. Simplement, pour créer et s'unir les uns les autres et créer en nous-mêmes, dans notre réalité à nous, l'espoir que Dieu nous donne. On va se courber dans un moment de prière. Seigneur grand Dieu, comment rester indifférent à l'espoir que tu nous offres? Un espoir que tu as accompli dans le passé, courageusement, souverainement, divinement à la croix, où tu as accompli la loi de Moïse par ton obéissance, ta perfection et ta résurrection. Tu as eu la victoire sur le mal qui est en chacun de nous et qui parfois est troublant. Tu nous as promis une victoire sûre et certaine. Quand tu vas revenir, apprends-nous aujourd'hui à vivre cela. À utiliser ce qui est arrivé dans le passé pour nourrir ce qui va arriver dans l'avenir, Seigneur, et que cet avenir soit tellement brillant pour nous qu'il nous pousse à la ferveur, à la passion et à vivre en tant que famille, que ce qui a été brisé peut être restauré. Cela a été restauré à la croix par ton sang, le sang de la nouvelle alliance, par ton message de grâce envers. L'espoir que tu nous donnes est réel. Apprends-nous à marcher avec foi et à se courber avec humilité pour marcher dans cet espoir, même si ce que le monde nous montre, c'est autre chose pour le moment, d'autres circonstances. Apprends-nous à focusser vers toi, Seigneur, la pensée de l'Évangile. Quand je me lève le matin, quand je passe du temps avec ma famille, avec mes collègues de travail, avec mon patron, avec ma conjointe, avec mes amis, que notre but, Seigneur, de notre vie soit de refléter cet espoir malgré le monde tortueux qui est le nôtre. Seigneur, je veux simplement te laisser sur cette parole qui dit Pierre. Seigneur, vers qui irions-nous d'autre que toi, que vers ton espoir pour illuminer nos vies? Apprends-nous à y marcher avec foi et à attendre patiemment le retour qui va manifester ta victoire contre le mal. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Apprends-nous à être des acteurs de grâce, de vérité et d'espoir autour de nous. Amen.